Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions enregistrées en avril 2017 autour du philosophe américain Henry David Thoreau. Henry David Thoreau, c'est le philosophe américain qui nous accompagne cette semaine sur les bancs de l'université pendant les cours de son professeur Emerson, au bord de l'étang Walden, auprès duquel il est allé vivre pendant 2 ans dans une cabane construite de ses propres mains, aux côtés de John Brown également, l'abolitionniste qui perdit sa vie dans son combat contre l'esclavage, mais surtout, dans les forêts du Maine, près des arbres et des animaux, en marchant à travers cette nature qu'il chérit tant et qu'il décrit mieux sans doute que ses contemporains. Alors aujourd'hui, je vous invite à découvrir le journal de Thoreau, plus de 7000 pages qui célèbrent la nature et la vie ordinaire, pas si banale. En route, à la rencontre de cet homme dont la plus grande fierté est d'avoir pu écrire en son nom, dire « je »,« moi », au milieu de « nous » et de « vous ».
Promenons-nous dans le mois, pendant que le vous n'y est pas. Car si le vous y était, sûrement il nous mangerait. J'ai peur du grand méchant vous. Ah, la vilaine bête que ce vous. Mais je ne sais comment j'arriverai à chasser pour toujours ce grand méchant vous de mes pensées. Promenons-nous dans le mois, pendant que le vous n'y est pas. Car si le vous y était, sûrement il nous mangerait.
Bonjour Michel Granger.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. C'est avec vous qu'on va se promener dans les bois, sous les bois, en compagnie du moi de Thoreau. Alors, vous avez été professeur de littérature américaine à l'Université de Lyon. Vous êtes spécialisé dans les écrivains de la Renaissance américaine, dont Thoreau, auquel vous avez bien rendu service en publiant de nombreux textes de lui aux éditions Le Mot et le Reste, les formidables éditions Le Mot et le Reste, dans lesquelles on trouve notamment le journal de Thoreau qui va nous accompagner aujourd'hui. Dans ce journal, on trouve une voix, puisque la voix est importante pour Thoreau, un peu différente, voire très différente de celle qu'on a entendue depuis lundi, hein, que ce soit dans l'essai de la désobéissance civile, dans une autre forme de journal qui a donné un texte Walden, dont on parlait mardi dernier, l'expérience qu'il raconte, hein, où il a vécu 2 ans au bord d'un étang qui s'appelle lui-même Walden, ou même dans ses conversations avec Emerson. La voix du journal est une voix particulière. Est-ce qu'elle reprend quand même des caractéristiques qu'on a présentées depuis lundi, ou bien est-ce que c'est radicalement différent?
Disons qu'elle apporte d'autres aspects. Le journal, c'est, comme il dit, je parle à moi-même. Lorsque c'est publié, il est obligé de se censurer d'une certaine façon. Donc, dans le journal, on a une parole libérée, une parole beaucoup plus forte, qu'on n'a pas tout à fait autant dans Walden, qui est sa grande œuvre, qui est une œuvre où il est obligé de fabriquer un personnage. Alors que dans le journal, c'est beaucoup plus authentique. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est la quantité de questions. Beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Alors que la parole de Walden est une parole assurée. Et l'autre jour, je crois que c'est Sandra Laugier qui parlait de manuel de vivre.
C'était mardi dernier, oui, l'émission de mardi.
Et alors que le journal n'est pas un manuel, c'est une pensée en train de se construire avec ses doutes, avec ses interrogations. Et on voit très souvent des moments où il s'interroge, il ne sait pas. Et même dans Walden, il dit qu'il sait pourquoi il a quitté les bords du lac et la cabane, alors qu'en fait, dans le journal, à la même date, il dit qu'il ne sait pas pourquoi. Donc, c'est une voix autre, plus authentique.
Plus de 7000 pages, je disais, dans l'édition française. Vous avez proposé une sélection qui tient en 600 pages, c'est déjà
un
choix
important. Un dixième.
Mais ça veut dire qu'il écrivait quotidiennement?
Oui, parfois jusqu'à une dizaine de pages publiées, enfin pages rédigées, et pages qui maintenant sont imprimées, donc on sait à peu près le volume. Parfois c'était rien, ou bien il était malade, il n'écrivait pas. Mais donc c'est un journal qu'il a commencé en 1837, apparemment selon la suggestion d'Emerson.
Donc son maître.
Son maître à penser pendant un temps, jusqu'à ce que la relation se détériore. Et pour moi, le journal commence à prendre de l'intérêt en 1851. C'est le moment où c'est vraiment une œuvre maîtresse, alors qu'il est aussi en train de terminer la rédaction de Walden, mais c'est vraiment là qu'il commence à penser de façon autonome. Donc pour moi, le journal, c'est les 10 dernières années entre 1851 et puis 1860. En 61, il n'a presque rien écrit.
On trouve des thèmes qu'on a un peu abordés cette semaine quand même déjà, l'importance du sauvage, on va y revenir parce que la pensée dite sauvage a une définition beaucoup plus subtile et riche que ce que le mot peut nous évoquer, l'importance d'avoir une parole libérée, anticonformiste, donc qui ne se plie pas aux règles sociales de vigueur, et puis ce rapport à la nature qui est toujours un peu ambivalent aussi, parce qu'aujourd'hui Thoreau est considéré comme étant des précurseurs de l'écologie, Walden est brandi comme une bible écologiste, c'est un peu plus compliqué que ça, donc on a toute l'émission pour essayer de préciser en quel sens c'est le cas. Voici un extrait du 18 avril 1852 dans lequel Thoreau propose une description du chou puant.
Quelle place spectaculaire la nature a-t-elle accordé au chou puant, la première fleur à se montrer au-dessus du sol nu? Quel rapport occulte est ainsi suggéré entre cette plante et l'homme? La plupart des bourgeons ont grossi de manière visible. Ils montrent un peu de vert ou de jaune. Dans l'univers, la nature se détend et perd de sa rigidité. Elle cède à l'influence de la chaleur. Chaque jour, l'herbe croît et verdi. Le chou puant est enfermé dans sa spathe, mais le chaton de saule déploie sans peur son bouton jaune vif au bout des brindilles, et la fleur fertile du noisetier a levé l'étoile écarlate et presque invisible de ses stigmates au-dessus de la terre sobre et stérile. Pourquoi seules ces visions et ces bruits devraient-ils accompagner notre vie? Pourquoi devrais-je entendre le gazouillis des merles? Pourquoi sentir la moufette chaque année? J'explorerai volontiers le lien mystérieux entre moi-même et ces choses. Je saurais au moins ce que ces choses sont de manière inévitable. Je dresserai la carte de notre vie, comment ces rivages s'incurvent, pourquoi et quand les papillons réapparaissent. Je saurai pourquoi ce cercle de créatures achève le monde. Ne puis-je, par cette attente, modifier les révolutions de la nature, consacrer ma journée à créer une chose nouvelle ?
Rendons hommage, Michel Granger, à l'excellente traduction de Brice Mathieu-Sen qui restitue la subtilité, le caractère poétique de cette langue, cette écriture qui est celle de Thoreau dans son journal et qui a bien des moments bouleversantes de beauté et de subtilité. Il affirme dans ce texte vouloir dresser la carte de notre vie et consacrer sa journée à créer une chose nouvelle. Tout ça à partir d'une description de ce qu'il nomme le chou puant qui annonce le retour du printemps. On a là un exemple du type de relation que Thoreau noue avec la nature.
Oui, c'est une plante, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, que personne ne connaît, qui n'est même pas particulièrement belle, mais il a étudié sa particularité, ce qu'elle a de caché et le fait qu'elle apparaît très tôt. Alors moi, ce que je note dans ce texte, c'est d'abord les questions. Quel rapport occulte? Pourquoi seules ces visions? Pourquoi devrais-je entendre? Donc, il n'est pas en train d'écrire comme un scientifique, il est en train de poser une question sur le sens de cette nature par rapport à lui. Qu'est-ce que ça lui fait? En quoi c'est important? Et à partir de cette observation, et je note d'ailleurs que c'est 1852 qu'il appelait l'année de mes observations, qu'est-ce qu'il peut en faire? Comment peut-il modifier sa vie? Qu'est-ce qu'il peut créer? Quel art de vivre peut naître de cette observation d'une nature sauvage? Celle justement qui n'est plus dans la vie urbaine. la vie urbaine qu'il a quittée, même s'il a simplement quitté son village, qu'il est allé à 20 minutes de chez ses parents.
Il n'était pas très loin, oui.
Non, c'est à côté, c'est à côté.
Et donc comment il faut comprendre le terme de sauvage ici? Vous parlez de la vie sauvage, la nature sauvage, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, ça n'est pas la nature de l'Ouest sauvage. Il n'y est jamais allé, il ne connaissait pas, il n'a eu jamais l'intention d'y aller. La nature sauvage, pour lui, c'est la nature non cultivée. C'est une nature indépendante de l'homme, qui pousse, même si l'homme disparaissait, cette nature continuerait à pousser. Et lui, justement, s'intéresse à tout ce qui est en dehors de l'homme et est susceptible d'être réintégré dans l'homme. Ce à quoi il objecte, et on voit cela dans ce passage, c'est cette coupure qu'on a traditionnellement notée entre l'humain et le non-humain, entre nature et culture. Ça, il le récuse totalement. Mmh. Et dans les choses intéressantes, un peu surprenantes qu'il peut dire, il dit par exemple... Je vis en plein air pour le minéral, le végétal et l'animal qui est en moi. C'est-à-dire que je ne suis pas un humain coupé de la nature. En moi, il y a du minéral, il y a de la pierre, il y a des lichens. Et donc, aller en visite dans les bois pour rencontrer ce chou puant, c'est rencontrer ce qui est bien évidemment un peu humain, mais indépendant de ce que l'homme peut fabriquer, qui n'est donc pas artificiel.
Ce qui le rassure aussi, hein, il dit, ça c'est un extrait du 3 juin 1853, « J'aime en partie la nature parce qu'elle n'est pas l'homme, mais un refuge loin de lui. Aucune des institutions humaines ne la contrôle ni ne l'envahit. Ici règne un droit différent. En son sein, je peux me réjouir d'une joie sans partage. Si ce monde était entièrement humain, je ne pourrais m'y déployer et je perdrais tout espoir. Pour moi, l'homme est contrainte. Et elle, la nature, liberté. Il me pousse à souhaiter un autre monde. Elle me rend heureux de celui-ci. »
Et alors,
une opposition là entre les deux.
Il est des deux côtés. C'est quelqu'un qui a vécu l'essentiel de sa vie au village. Même quand il était dans sa cabane, il rentrait au village tous les jours. Il allait fréquemment à la bibliothèque de Harvard. Il ne faut pas l'oublier. Mais il aime bien cette nature sauvage, ou bien il aime cultiver. Il a cultivé un champ de haricots dont il dit qu'il est intermédiaire entre les deux mondes. Donc il est ni d'un côté ni de l'autre. L'idée, c'est de tout récupérer, d'avoir les avantages des deux côtés.
Mais la nature le repose de l'homme, hein. C'est ce qu'il dit, c'est comme un refuge. Il a besoin, peut-être qu'il fait partie d'un même tout, avec la nature végétale, minérale, animale, mais il a besoin d'accentuer l'altérité pour mieux s'y réfugier, justement.
Oui, et c'est pourquoi il a vécu, moi j'aime bien le terme d'excentrique, parce qu'il est sorti du centre.
Oui, excentrique.
Il a vécu un petit peu à la marge, et il a une formule que j'aime bien, il dit qu'il vit à la lisière du monde sauvage, qui n'était pas vraiment sauvage, qui était la simple campagne, les bois, les marais, les rivières. Donc il est à la lisière, il est tout proche, il fait des incursions dans ce monde-là. Mais ce sont ces incursions qui le nourrissent, qui le stimulent. La nature sauvage, c'est ce qu'il appelle un tonique. C'est quelque chose qui lui donne l'énergie. Thoreau est quelqu'un qui a proclamé la santé, mais qui était malade. Il est mort très jeune, il est mort de la tuberculose. Il a eu toutes sortes de moments où il ne pouvait pas sortir. Pendant des mois, il ne sortait pas. Et donc la nature, c'est ce qui lui permet de reprendre du dynamisme, c'est son fortifiant.
Vous dites « il est à la lisière » et ça peut faire penser au titre de l'autobiographie de Jim Harrison qui s'appelle « En marge », qui d'ailleurs à qui l'on doit une préface à ce texte dans vos éditions « Les mots et le reste ». C'est cette position de l'écrivain qui est à la fois immergé dans le monde et qui revendique cette immersion et le fait d'être fabriqué dans la même sève, le même tissu que celui de la nature, et en même temps d'être observateur, pour pouvoir observer, il faut être un tout petit peu à côté.
Un petit peu à côté, oui. Quand il va observer, il dit qu'il a deux façons d'observer. Soit il a une attente, donc il va chercher quelque chose, il dit qu'il va rendre visite à une plante, soit il se laisse aller et c'est l'imprévu qui survient, c'est la surprise, il y a les deux. Mais c'est parce qu'il est à la limite qu'il peut se permettre ce genre de choix. Tiens, aujourd'hui, je vais aller de tel côté voir telle plante. «
Cet après-midi, je suis venue ici, de l'autre côté du lac, pour voir la dense parcelle de pins blancs de Wheeler qui ont été coupées l'hiver dernier, pour voir à quoi ressemblaient les petits chênes poussant à l'intérieur. Je découvre avec surprise et consternation que l'homme qui se fait passer pour le propriétaire de cette parcelle l'a entièrement brûlée et a semé du seigle d'hiver. Il a sans doute l'intention de la laisser repousser dans un an ou deux, mais il s'est dit que ce serait autant de gagner si entre-temps il pouvait en tirer un peu de seigle. Quel idiot ! La nature ici avait tout préparé en vue de ce cas d'urgence et elle se tenait prête pour de nombreuses années. Des chênes âgés d'une demi-douzaine d'années ou plus, aux massives racines fusiformes, aux cimes pointant déjà vers le ciel, attendant seulement d'être touchés par le soleil. Mais lui a cru être plus malin. Il a voulu d'abord en tirer un peu de seigle, qu'il pourrait aussitôt laisser glisser entre ses doigts, et il a donc tout brûlé avant d'y faire passer sa herse. Comme si les chênes devaient se soumettre à son emploi du temps, ou obéir à ses ordres. Ou comme s'il préférait avoir un bois de pin ou de bouleau peut-être d'ici un demi-siècle, car la terre est malade des pins, plutôt qu'un bois de chêne tout de suite. Il traite donc la nature à la légère. Je suis triste pour lui. Dire qu'il se qualifie lui-même d'agriculteur. Il a besoin d'un tuteur au-dessus de lui. Le village devrait nommer un garde forestier pour surveiller les mauvais gestionnaires. Dans ce texte du 16 octobre 1860, Michel Granger apparaît plus clairement la dimension proprement écologique des écrits de Thoreau, puisqu'on le connaît aussi pour ça aujourd'hui. Il s'agit dans ce texte de rien de moins qu'un appel à gérer vraiment au sens gestionnaire du terme, la forêt de manière intelligente.
Alors, d'abord, c'est à partir de ses observations, notamment des graines, qu'il s'est rendu compte que la création spéciale ou la génération spontanée n'avait pas de sens. Et donc, il est allé à l'encontre d'un des grands savants de Harvard. Puis, lorsqu'il a pu lire Darwin, il a été d'accord avec le darwinisme. Et donc, c'est une observation relativement scientifique qui lui a permis de faire une conférence à la fin de sa vie devant une société d'agriculture pour dire aux propriétaires de forêts comment il fallait gérer leur forêt, c'est-à-dire comment respecter les lois de la nature au lieu d'imposer la loi du profit. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire que cet amateur, qui ne voulait pas être scientifique, a pu donner des leçons. Et maintenant, certains de ces textes sont utilisés par des chercheurs pour étudier le climat, pour étudier la diminution de la biodiversité. Donc il est véritablement reconnu comme un des précurseurs de l'écologie. Mais ça, à partir de cet amour de la nature et de ses promenades quotidiennes pendant lesquelles il prenait des notes, il revoyait ses notes, enfin il réfléchissait, c'est presque un travail de savant, sauf que il ne voulait pas être savant, il l'a dit clairement, il était un transcendantaliste, il cherchait le sens de tout ça.
Sauf qu'en plus de chercher le sens, il a aussi une dimension quasiment poétique dans son travail, un vrai goût de l'écriture, et puis une âme de gestionnaire quand même. Dans Walden, c'est assez clair, ça l'intéresse de savoir comment faire pour être le plus efficace possible, pour le mieux organisé possible, pour vivre au mieux en réalité.
Oui, sauf que dans le cas de Walden, il s'agit de démontrer qu'on peut vivre de peu. On est dans le cadre de la simplicité volontaire, supprimer tout ce qui est futile, tout ce qui est inutile. Et le terme que je préfère, parce qu'il est le plus fort, c'est la pauvreté volontaire. Dans une Amérique qui vantait la richesse, lui dit on peut créer un mode de vie respectueux de la nature, simple, et qui est à la fois poétique, esthétique, et qui arrive à une forme de bonheur.
Oui, il dit même que selon son expérience, il n'a rien trouvé d'aussi réellement appauvrissant que ce qu'on appelle la richesse, c'est-à-dire la possession de plus grands biens que ceux qu'on avait auparavant. Et là, c'est un rejet de la richesse et d'un système économique qui est celui de la société dans laquelle il vit, ou c'est parce que la nature elle-même a une autre forme de richesse? Comment est-ce qu'il faut le comprendre?
Je crois que le point de départ pour moi, c'est le rejet de la société, du capitalisme industriel de son époque, dont il souffrait, l'addiction à l'argent, le fait que tout était lié au travail. Et en revanche, lui voulait s'en éloigner et il trouve dans la nature un certain modèle où on peut se débarrasser de ce qui est futile. Ce qui n'empêche pas qu'il reconnaît l'abondance qui est dans la richesse, la prodigieuse diversité, la richesse des impressions, des spectacles, quelque chose qui est inépuisable et qui pour lui est la source de son émerveillement quotidien.
Et pourtant, quand il vit ces expériences-là, et surtout dans son journal, on l'entend rarement nous faire la leçon. C'est-à-dire qu'il parle de son expérience, il y a plutôt la volonté de se placer comme un exemple et de montrer comment vivre autrement est une possibilité qu'il essaye de mettre en œuvre, et rarement une dénonciation directe et avec le doigt pointé vers ceux contre qui il s'oppose.
La dénonciation est dans Walden.
Ouais.
Mais dans le journal, il a rarement besoin de le faire, ou quand il le fait, on peut se demander s'il n'est pas en train de préparer une conférence. Et
qu'il parce qu'il est conférencier quand même, c'est important ça.
Oui, il a fait 75 conférences pendant sa courte vie. Donc certains passages où il dit « vous », laissent penser qu'il a en tête ses auditeurs et que ce sera peut-être le texte d'une conférence. Voilà.
Alors on va entendre un autre extrait dans lequel on entend une forme d'éloge du quotidien, sans doute. Thoreau est aussi présenté avec son maître Emerson comme un des fondateurs de la pensée dite de l'ordinaire. Et c'est vrai que la vie ordinaire, qui n'est pas la même chose que la vie quotidienne, il procède à la distinction entre les deux, est très importante dans son œuvre, mais reste à savoir ce qu'on entend vraiment par ce thème d'ordinaire. Alors écoutez, cet éloge d'une vie quotidienne, j'insiste bien sur le terme, de voir en quoi du coup cette vie quotidienne rend toute forme de voyage complètement inutile.
Quand on m'a proposé de voyager, de me dérouiller et d'améliorer ma condition au sens banal du terme, j'ai craint que ma vie ne perde un peu de sa simplicité. Si ces champs, ces cours d'eau et ces bois, les phénomènes de la nature proche et les occupations simples de ses habitants devaient cesser de m'intéresser et de m'inspirer, alors aucune culture, ni aucune richesse ne pourrait me dédommager de cette perte. Je redoute le gaspillage impliqué par les voyages, la fréquentation de la société, même la meilleure, le plaisir des luxes intellectuels. Si Paris est très présent dans ton esprit, si cette ville compte de plus en plus pour toi, Concorde compte de moins en moins. Et ce serait pourtant un marché de dupes que d'accepter d'échanger la plus fière des capitales contre mon village natal. Au mieux, Paris serait seulement une école où apprendre à y vivre, un marchepied pour Concorde, une école pour suivre les cours de cette université. Je souhaite toujours vivre pour tirer satisfaction et inspiration des événements les plus banals, des phénomènes quotidiens. Ainsi, ce que mes sens perçoivent à chaque instant, ma promenade de chaque jour, mes conversations avec mes voisins m'inspirent. Et je ne rêve de nul ciel sinon de celui qui m'entoure. Certains hommes se mettent à apprécier le vin ou le brandy et perdent ainsi tout amour pour l'eau. Mais ne devrions-nous pas les plaindre? La vue d'un busard Saint-Martin dans les prés de Concorde m'importe davantage que l'entrée des Alliés à Paris. En ce sens, je ne suis pas ambitieux. Je ne veux pas que ma terre natale s'épuise et dépérisse par négligence. Seul est bénéfique le voyage qui me révèle la valeur de ma terre natale et me permet de mieux en jouir. Le plus riche des hommes est celui dont les plaisirs sont les moins coûteux.
Chemin de la philosophie, c'est le quatrième et dernier temps de notre série d'émissions consacrée au philosophe américain du 19e siècle, Thoreau. Et nous parlons de son journal, aujourd'hui en compagnie de Michel Granger, à qui l'on doit une sélection des textes de son journal qui est gigantesque. Mais ici, il fait quand même 600 pages en français dans une traduction de Brice Mathieusson aux éditions Le Mot et le Reste. On vient d'en entendre un extrait interprété par le comédien Yvan Morane. Le mot-clé de Thoreau, c'est que c'est celui de simplicité. Il en appelle à la simplicité. Et cette simplicité, eh bien, c'est aussi une manière elle peut être trouvée lorsqu'on regarde ce que l'on a devant soi. Le voyage est inutile parce qu'il me fait perdre un peu de ma simplicité, dit-il. Et la simplicité est donc une manière peut-être de se contenter de ce qu'on a devant les yeux. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut comprendre l'intérêt porté à la question de l'ordinaire, Michel Granger?
Alors,
Parce que l'ordinaire, est-ce que c'est ce qu'on a devant les yeux?
J'aurais tendance à dire que l'ordinaire, c'est un peu compliqué parce que le mot est ambigu.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Oui. Ce texte dit bien que il part de l'ordinaire, le banal, le quotidien. Mais le problème, c'est qu'à partir du banal, du quotidien, il fait autre chose. Et c'est par exemple la vue d'un busard Saint-Martin. C'est ce qui est extraordinaire. Et c'est là que le mot ordinaire pose un problème, parce que dans notre écoute du mot, actuellement, le mot ordinaire, c'est banal, c'est commun.
C'est un synonyme de banal, or il n'en est rien. Ouais.
Et lui, justement, s'éloigne du banal, il part du banal, en bon émersonien, en bon intellectuel américain. Il part de là pour aller ailleurs. Et il y a toutes sortes de citations dans le journal où il dit que « Je serais volontiers pêcheur, chasseur, paysan, prêcheur, mais pour pêcher, chasser, cultiver, prêcher des choses échappant à l'ordinaire. » Donc c'est toujours aller au-delà, dépasser nos limites ordinaires. C'est aussi l'idée du pas de côté, pour m'éloigner du cours ordinaire des choses. Donc cette citation qu'on vient d'entendre, elle est très intéressante parce qu'elle montre que, bien sûr, on pourrait dire que c'est provincial, c'est limité, il ne veut pas aller à Paris. Comment peut-on refuser d'aller à Paris? Mais il va s'étioler dans son Concorde, son petit village, sa petite campagne. Eh bien non, je ne rêve de nul ciel, sinon de celui qui m'entoure, parce que dans ce ciel, il va voir un busard Saint-Martin. Et c'est extraordinaire. Et la plupart des gens n'ont jamais vu un busard Saint-Martin. Donc ils ne savent pas ce que c'est que cette forme, ils ne savent pas ce que c'est que ce mouvement de rapace. Voilà. Donc je crois qu'avec ce texte, on a bien la particularité de l'ordinaire. Vous avez intitulé l'émission « Journal d'une vie ordinaire », mais il faut l'entendre dans un sens bien spécial, il faut le mettre entre guillemets. C'est un ordinaire qui est quasiment extraordinaire par ce qu'il en fait, par ce qu'il en écrit, par la poésie de ses textes, parce qu'il est capable de repérer ceci ou cela qu'un œil normal ne repérera pas.
C'est comme ça qu'il faut entendre le terme « ordinaire » dans la pensée ordinaire telle qu'elle est développée par Emerson, par Louis Thoreau, puis plus tard par Stanley Cavell. C'est vraiment la pensée de l'ordinaire, ce n'est pas du tout la pensée du trivial, du commun, mais la pensée de ce que nous avons peut-être sous les yeux, mais que nous connaissons très mal. Et toute la difficulté d'arriver à domestiquer peut-être cet ordinaire.
Ou à s'enraciner.
De le regarder, en tout cas.
Ouais. Il y a un enracinement. Il ne faut pas aller au loin, parce que ça serait un regard superficiel. Il faut s'enfoncer dans ce monde pour en pénétrer tous les aspects. Et puis, il y a la dimension écologique. En voir tous les aspects, toutes les relations à l'intérieur d'un biotope. Voir comment les êtres vivants vivent ensemble, s'influencent les uns les autres.
Mais pour Thoreau, la pensée de l'ordinaire s'enracine, comme vous dites, dans le monde naturel.
Oui.
C'est-à-dire que c'est pas du tout l'ordinaire, c'est pas la vie ordinaire d'un homme qui vit en ville ou qui vit à Paris, c'est celui qui vit à Concorde près de la nature.
Oui, sauf qu'à certains moments, il dit je devrais m'intéresser plus à la vie ordinaire des hommes, aux gestes simples. Il y a des textes absolument magnifiques sur ses voisins, qui sont pas évidemment les notables de Concorde, mais qui sont des paysans, vieux paysans, des braconniers, des pêcheurs, et qui vont ramasser du bois. Et donc, il décrit comment ils vont ramasser du bois flotté, comment ils vont fendre du bois pour se chauffer. Donc il y a aussi des choses qui ont à voir avec la simplicité de certains êtres humains. Mais ce n'est pas ce qu'il est allé chercher à New York quand il est allé à New York, ni ce qu'il peut voir dans les industries de la région. C'est évidemment plutôt lié au monde rural, très proche de la nature.
Il faut lire la phrase en entier lorsqu'il parle de la vue d'un Buzard Saint-Martin qui, comme vous le dites, a quelque chose d'exceptionnel. Mais il dit que cette vue, donc du Buzard Saint-Martin dans les prés de Concorde, qui est l'endroit où il habite, m'importe davantage que l'entrée des Alliés à Paris. Et là, on a un caractère, disons, problématique de cette prise en compte de l'ordinaire. C'est comme si elle se faisait aux dépens d'une histoire, d'une vie politique, d'un événement, avec un E majuscule au sens collectif du terme. Et on peut entendre un peu de provocation ici quand même. Je préfère garder l'oiseau devant moi que de voir Paris libéré.
Oui.
Ce qui contredit les textes plus politiques dont il est l'auteur également dans ses essais, qui en appellent quand même un engagement politique.
Sauf que là, c'est la victoire des alliés comme les Anglais, les Prussiens contre Napoléon. C'est quelque chose qui est très, très lointain, alors que ces textes politiques sur l'abolition de l'esclavage, c'est quelque chose de très particulier, dans lequel il était très engagé, au point d'aider à la fuite des esclaves.
C'est parce que Paris est loin de lui qu'il dit ça, en fait.
Oui. Et en plus, parce que certains intellectuels de Nouvelle-Angleterre faisaient traditionnellement le tour de l'Europe, comme son ex-ami Emerson.
On y retrouve aussi dans ce texte l'idée de jouir de ce qu'on a. Il dit « Seul est bénéfique le voyage qui me révèle la valeur de ma terre natale et me permet de mieux en jouir. »
Bien sûr. C'est la terre natale, d'ailleurs le mot est répété plusieurs fois dans ce texte. La terre natale, c'est le lieu où il est, où il vit pleinement et où il jouit.
C'est-à-dire, on n'est pas ici dans l'ascétisme protestant qu'il caractérise pourtant.
Non. Il est ascétique au sens de ne pas trop manger, préférer l'eau au vin. Mais la sensualité de Thoreau est quelque chose qu'on ne remarque pas assez. Il jouit de toutes sortes de choses, ne serait-ce que d'aller même marcher nu dans de la vase, dans un marécage. Des choses comme ça, donc des sensations purement corporelles qui pour lui sont très 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 importantes.
Il n'y a pas de distinction, il va jusqu'à... Vous avez dit que cette expérience de la nature était agréable, même valorisée par lui parce qu'il s'y incluait, parce qu'il fait partie de ça, il est à la fois végétal et animal. Mais il n'y a pas non plus de distinction entre la nature et la pensée, c'est-à-dire que chez lui, ça c'est propre au courant transcendantaliste, c'est comme si la nature elle-même avait une âme. Il y a une forme de mysticisme qui est très présent dans ces lignes.
Absolument, c'est le lieu où il va tirer sa pensée. Enfin, sa pensée n'est pas distincte. Lorsqu'il parle justement du minéral, du végétal, il termine cette citation en disant que sa pensée est faite de la nature, sa pensée est faite des tropes qu'il puise dans la nature. Il n'y a pas de distinction. C'est pour ça qu'il a besoin de se ressourcer périodiquement et d'avoir ces modèles de la nature pour pouvoir penser. Le journal est le lieu où il se construit, le lieu où il forme sa pensée. Et cette pensée, elle vient de la nature. Donc dans un passage où il parle du Buzard Saint-Martin, il est en train de dire qui il est, quelle est sa pensée.
Parler d'un mysticisme de la nature, ça ne veut pas dire pour autant qu'il va souscrire à aucune forme de chapelle. On a dit que c'était un anticonformiste, il faut prendre ça au sens fort du terme. Il va autant fustiger l'État que l'Église, que l'école, et présenter ainsi sa parole comme une parole libre. Écoutez cet extrait du 16 novembre 1858.
Un prêche ? Une conférence ? Qui êtes-vous pour réclamer ces choses ? Que désirez-vous entendre, vous autres, nourrissons, piailleurs ? Un éclat de trompette qui va vous hausser vers l'humanité ou bien la berceuse d'une nounou ? Prêcheurs et conférenciers ont affaire à des hommes de paille, car eux-mêmes sont des hommes de paille. Oui, un homme à la parole libre, au poumon sain, ne peut aspirer longuement l'air sans que le vide qu'il crée ainsi ne fasse s'effondrer vos institutions pourries. Votre église est une maison de poupées faite de cubes, tout comme l'État. Quel soulagement ce serait que de respirer parfois à l'aise parmi les hommes. S'il y avait en nous la moindre magnanimité, la moindre grandeur d'âme, autre chose que des sectes et des partis décidés à traiter Dieu avec condescendance et à tenir l'esprit en laisse, comme une libre expression pourrait souvent nous encourager à nous provoquer mutuellement. Je refuserais de marcher la bouche muselée tant que je n'aurais pas la rage, que je ne risquerais pas de mordre l'innocent et de lui communiquer l'hydrophobie. La liberté de parole. Votre cœur n'a pas idée de ce que veulent dire ces mots. Ce n'est pas la permission à moi accordée par votre secte de dire ceci ou cela. C'est quand on donne à votre secte la permission de se retirer. L'Église, l'État, l'école, les journaux se croient progressistes et libres. C'est la liberté d'une cour de prison. Je demande seulement qu'un quart de mes pensées honnêtes s'exprime à haute voix. Que tolérez-vous donc, vous, l'Église d'aujourd'hui? Certes pas la vérité, mais une hypocrisie bien ancrée.
On y a quand même une tonalité rousseauiste dans ce texte hein, qui prend un certain plaisir à dénoncer toute forme d'organisation humaine qui va, alors il ne prononce pas le terme, hein, corrompre l'âme naturelle de l'homme qui serait bon. C'est quand même, voilà, il dénonce tout le monde, toute la société, en disant que la liberté de parole est celle qui justement se permet, se donne le droit de se retirer de toutes ces institutions, Michel Granger.
Se retirer et à l'occasion en parler avec vigueur. Ce texte est d'une force, même un petit peu contenue. Il n'emploie pas le mot « la rage », il dit « tant que je n'aurai pas la rage », mais on entend par-dessous qu'il est en rage contre la pression qu'il a subie par la religion dans son village, au point qu'il a, à un certain moment, par un acte symbolique fort, décidé de ne plus payer la dîme, parce qu'il était obligé de payer la dîme. Donc il y a quelque chose de très fort, et des formules comme « la liberté d'une courte prison », c'est bien que il n'est pas un penseur tiède. Et donc là encore, on a le journal qui est beaucoup plus virulent que Walden. Là, il se lâche. D'ailleurs, j'ai parlé d'une pensée débridée parce qu'il dit que son gros problème, c'est de ne pas se brider parce que la société veut qu'il se bride. Et le journal lui permet de se débrider. De s'exprimer en toute liberté, quitte à aller contre les fondamentaux de la société de son temps, qui était très, très religieuse, qui avait des institutions, qui vantait l'État, sa constitution. Il a quelque part dit que la constitution américaine était le mal. Bon, donc, dans le journal, il peut se laisser aller à dire une parole qui est quasiment inaudible. Il ne peut pas la dire. Bon, il l'a dit une ou deux fois dans des conférences en faveur de John Brown, mais dans l'ensemble, il ne peut pas parler aussi fort qu'il le fait ici.
Et il le dit d'ailleurs plus loin, il dit « Je m'intéresse à une perspective indistincte, à une vue lointaine, parfois une simple suggestion, qui me révèle un monde presque entièrement nouveau. Je me réjouis de découvrir et suis capable d'offrir un point de vue inédit, mais je trouve impossible de présenter mon point de vue à la plupart des gens. »
C'est son drame. Et d'ailleurs, il est resté totalement inconnu. Il faisait partie des transcendantalistes, quelques intellectuels de cette bourgade un peu extraordinaire. Concorde est une bourgade extraordinaire qui est un des lieux fondamentaux de l'histoire américaine, l'histoire de l'indépendance, mais c'est aussi le lieu de la culture américaine, la culture des intellectuels au 19e siècle. Mais c'était des marginaux, c'était des gens qui étaient des uluberlus, quoi, des fadas pour l'ensemble de la société. Et eux-mêmes le savaient. Ils savaient que ce qu'ils avaient à dire n'était pas du tout pris en compte, pas du tout respecté. Donc, il est resté un peu dans son coin et il n'a jamais eu de célébrité. Il a été redécouvert quelques décennies plus tard comme écrivain de la nature. Alors, il avait droit à quelques pages dans les manuels scolaires parce qu'il écrivait très bien. Et puis, à certains moments, il est réapparu, notamment dans les années 1960, Chaque époque le redécouvre, plus récemment l'a redécouvert comme écologiste ou bien comme précurseur de la décroissance. Mais
en France, parce qu'il est resté quand même plus connu aux États-Unis.
Oui, bah, il est resté beaucoup plus connu. Ça fait partie des piliers de ce que tout individu un petit peu cultivé est censé connaître, parce qu'il aura lu 3 pages de Walden au lycée. Oui, il fait partie de
la culture américaine.
La culture américaine, c'est sûr. Mais combien d'Américains l'ont lu? Je suis pas sûr que Trump a lu Walden. Je suis même prêt à parier qu'il ne l'a pas lu.
Vous prenez pas beaucoup de risques avec ce pari, Michel Granger. Quand vous dites que Thoreau est contre la société de son temps, est-il contre la société de son temps ou contre la société en général? Parce que c'est pas la même chose. Lui qui prône une forme de solitude, de retrait, de vie dans la nature, est-ce que ce qu'il déplore dans la société contemporaine, dans la sienne, est un certain mode d'être, ou est-ce que c'est le fait d'être ensemble qui produit nécessairement des choses que lui déplore?
Je crois que ce serait plutôt le fait qu'il ne peut pas être ensemble. D'ailleurs, il n'a jamais adhéré à un mouvement. Il n'a jamais accepté de participer à une communauté. Pour lui, il est fondamentalement un individualiste, mais un individualiste créateur, pas individualiste au sens de l'égoïste qui ne pense qu'à lui-même. La preuve, c'est qu'il a écrit, qu'il a fait donner des conférences. Donc, il cherche à...
Il a envie de transmettre quand même.
De transmettre, absolument. Mais il se rend compte qu'il ne peut pas vivre en société. Il est à part. D'ailleurs, dans une des citations du journal, il dit « Je suis réfractaire à la société ». Donc ça, il le sait. Mais bon, chacun a ses défauts, ses limites. Mais lui, à partir de cette limite, il en a fait quelque chose qui laisse une œuvre très riche et très, très utile pour notre époque, si on veut bien réfléchir.
Alors que je longe la voie de chemin de fer, je suis troublé, comme ces 2 derniers mois, par le bruit de mes pas sur le sol gelé. Je désire entendre le silence de la nuit, car le silence est une chose positive à laquelle il faut prêter l'oreille. D'ailleurs, je ne peux marcher quand j'ai les oreilles couvertes. Je dois rester immobile et tendre l'oreille, loin des bruits du village, pour que la nuit puisse se graver en moi. Un silence fertile et éloquent. Parfois, le silence est simplement négatif, une terre désolée, aride et stérile, où je frissonne, où ne pousse aucune ambroisie. Je dois entendre le chuchotis d'une myriade de voix. Seul le silence est digne d'être écouté. Le silence, comme le sol, est d'une profondeur et d'une fertilité inégales. Tantôt, c'est un simple Sahara, où les hommes meurent de faim et de soif, tantôt un creux ou une prairie fertile de l'ouest. En quittant le village et en m'approchant des bois, j'écoute de temps à autre pour entendre les chiens du silence aboyer à la lune, pour savoir s'ils sont sur la piste de quelque gibier. À quoi bon, si nulle Diane ne hante la nuit? Je tends l'oreille pour entendre la déesse Diane. Le silence sonne. Musical, il m'enchante. Une nuit où le silence était audible. J'entends l'indicible. Cet éloge du silence, Michel Granger, qu'on entend particulièrement à la radio, quand on est à l'affût du moindre son qui viendrait s'adresser à nous, est au-delà, pas simplement esthétique, hein, le plaisir d'être la nuit dans le silence, mais quand Thoreau affirme qu'il entend l'indicible, c'est qu'en fait le silence n'est jamais silencieux, qu'il émet des signaux qu'il s'agit de déchiffrer, n'est-ce pas?
Oui, il y a d'ailleurs dans Walden un très très beau chapitre sur les sons où il entend la nuit des choses, mais il projette des sons. Donc ça, c'est effectivement un très beau texte où il dit qu'il est à part, il n'aime pas le bavardage mondain, il aime entendre le silence, qui est un silence habité, parce que la nature n'est jamais totalement silencieuse. C'est un silence habité et il aime écouter, mais dans le même temps aussi pouvoir penser librement. Parce que ce silence, c'est ce qui facilite la pensée, la recherche de sens et la recherche de cet indicible, de ce qui est mystérieux et qui lui importe, qui l'attend. Donc, le silence, c'est essentiel. De même qu'il a de très beaux passages sur la solitude. Il préfère marcher seul, sans faire de bruit, parce qu'il peut aussi voir des animaux, surprendre des bêtes. Mais c'est aussi parce qu'il est aux aguets, qu'il peut réfléchir. C'est les deux à la fois.
Et le silence, c'est surtout celui dans lequel on est plongé quand on est loin des hommes. C'est le silence des hommes.
Ah oui, c'est celui
parce que rien n'est moins silencieux que la nature et la nuit.
Absolument. Mais c'est ce qui lui permet de ne pas entendre le bavardage mondain. Il a des pages où il dit qu'il a travaillé ou bien qu'il a vécu un peu trop dans la maison familiale et que... Ben c'est pénible, quoi. Il a besoin de quitter. Et il y a un très joli passage où il dit qu'il avait enfin la possibilité d'avoir une promenade pensive. Et là, il parle à nouveau du silence.
Une promenade pensive, c'est comme ça qu'on peut définir, hein, sans doute ce journal de Thoreau. Merci Michel Granger d'être venu en parler aujourd'hui. Je renvoie donc à l'édition du journal, aux éditions Le Mot et le Reste, ainsi que Voisins animaux et Pensées sauvages, deux autres recueils de textes que vous proposez dans une traduction de Brice Mathieusson, et donc toujours aux éditions Le Mot et le Reste.
There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, over land and sea. A little shy, and sad of eye. But very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Just to love and be loved in return.
Sur France Culture, la voix de George Benson en hommage à Nat King Cole, l'auteur de la chanson Nature Boy. Il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Comme tous les jours, vous nous parlez d'actualité en lien avec la philosophie et je vois devant vous le discours de Suède d'Albert Camus.
Et oui, exactement, Adèle. Début octobre, on a appris à qui revenait le prix Nobel de littérature, donc 2017. Il a été décerné cette année à l'écrivain britannique Kazuo Ishiguro, mais il y a 60 ans. Et effectivement, c'est ça mon actualité, c'est cet anniversaire. Il était remis à Albert Camus, qui avait alors prononcé ses discours de Suède, que les éditions Folio ont réédité pour l'occasion. Et pour moi, c'est l'occasion de me demander, mais que nous livrent les artistes dans ces discours de prix Nobel? Quelle vision de leur art et de l'art en général y développent-ils? Et si les écrivains, mieux que tout philosophe, y faisaient œuvre de théorie esthétique.
Lorsque les philosophes eux-mêmes désertent le seuil métaphysique, il advient au poète de relever là le métaphysicien. Et c'est la poésie alors, non la philosophie, qui se révèle la vraie de l'étonnement.
Alors Géraldine, soit c'est Orson Welles qui fait un canular, soit c'est pas Camus qu'on vient d'entendre.
Alors non, effectivement, bonne oreille, ça n'est pas Camus, c'est Saint John Peirce. C'était en 1960, il reçoit le prix Nobel de littérature et son message est clair, la littérature, la poésie en l'occurrence, a toute la légitimité, l'envergure, la force pour prendre la place de la philosophie. Et c'est donc l'enjeu de tous ces discours de prix Nobel, comprendre ce que les artistes disent de leur art pour comprendre ce qu'est l'art, pour comprendre ce vaste concept et impressionnant concept dont d'art. Et avec ce genre de prix, c'est l'occasion rêvée pour les écrivains de le faire, de prendre par eux-mêmes et sans les philosophes de la distance sur l'art, d'y jeter un regard surplombant et réflexif, bref, d'en proposer une théorie. Mais alors, quelle théorie et comment produire une esthétique? Est-ce forcément prendre la place de la philosophie, revêtir les atours du concept, adopter sa méthode et sa finalité, comme celle de l'étonnement? Produire une esthétique, est-ce forcément produire une théorie en bonne et due forme?
If a song moves you, that's all that's important. I don't have to know what a song means. I've written all kinds of things into my songs, and I'm not going to worry about it, what it all means. When Melville put all his Old Testament biblical references, scientific theories, Protestant doctrines, and all that knowledge of the sea and sailing ships and whales into one story, I don't think he would have worried about it either, what it all means.
Bon, c'est toujours pas Camus, mais je crois que c'est une voix qu'on est habitué à entendre chanter plutôt, Géraldine.
Exactement, décidément, Adèle, quelle oreille. Ouais, donc, ce deuxième exemple, donc, est un peu provocateur, évidemment, pour répondre à cette question de la théorie esthétique. Comme le choix d'ailleurs de l'Académie suédoise qui a remis donc l'année dernière le prix Nobel de littérature à Bob Dylan. C'était un saut dans l'art, dans le temps et dans l'esprit. On est passé de 1960 à 2016, de Saint John Peirce à Bob Dylan. On est passé d'un exposé en public, officiel, cérémonieux, où la littérature fait œuvre philosophique, à un récit enregistré et envoyé 6 mois après la remise des prix et dans lequel Bob Dylan revient donc sur ses premiers amours musicaux et romanesques et se demande ce qu'il peut y avoir de littéraire dans ses chansons. Et pourtant, l'esthétique n'est-elle pas là justement? N'est-elle pas dans ce que raconte Bob Dylan, dans tous ses mouvements de l'âme, dans tous ses ressentis, dans toute cette sensibilité déployée et touchée par les œuvres? C'est d'ailleurs bien le sens premier de l'esthétique, mais voilà, entre l'approche métaphysique d'un Saint John Peirce et celle très physique de Bob Dylan, où situer l'art? Quelle idée globale s'en faire? Faut-il y renoncer? Faut-il renoncer quand on écoute un artiste à découvrir une esthétique en forme théorique, ce qu'on pourrait appeler autrement dit une philosophie de l'art?
Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle.
Vous avez reconnu cette fois-ci, Adèle?
Je crois que c'est lui.
Voilà, c'est Albert Camus, c'est le troisième et dernier exemple pour ce journal, celui qui justifie donc toutes ces questions que je pose aujourd'hui, Albert Camus et ses 2 très beaux discours de Suède. Alors que nous dit-il pour sa part? Que livrait-il dans ce discours et cette conférence qui date d'il y a 60 ans? Artiste, je cite, embarqué dans la galère de son temps, art, comme on l'a entendu, qui n'a rien d'une réjouissance solitaire, l'esthétique de Camus insiste sur les obligations de l'art. Il fait des œuvres des voix obligées par le tumulte de l'histoire, c'est-à-dire obligées, non pas à prendre un parti, partie, mais à faire partie, à être pris au milieu de tous pour comprendre. Ni juge, ni indifférente, ni métaphysique, ni physique, telle est l'esthétique de Camus. Une esthétique tout court qui ne joue pas à la philosophie, ni à ne pas l'être du tout.
Merci beaucoup Géraldine pour cette exégèse des discours du prix Nobel et pour nous avoir parlé de Camus.
Et donc de ces discours de Suède, prix Nobel 57, qui sont réédités par les éditions Folio.
À lire et à écouter, on a aussi l'enregistrement. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Cette semaine, je vous propose chaque jour de découvrir ou redécouvrir un poème lu par le comédien Georges Clès. Aujourd'hui, La chevelure de Charles Baudelaire.
Toison moutonnant jusque sur l'encolure, ô boucle, ô parfum chargé de nonchaloir, extase. Pour peupler ce soir l'alcôve obscure des souvenirs dormant dans cette chevelure, je la veux agiter dans l'air comme un mouchoir. La langoureuse Asie et la brûlante Afrique, tout un monde lointain, absent, presque défunt, vit dans tes profondeurs, forêts aromatiques. Comme d'autres esprits voguent sur la musique, le mien, ô mon amour, nage sur ton parfum. J'irai là-bas où l'arbre et l'homme plein de sève se pâment longuement sous l'ardeur des climats. Forte tresse, soyez la houle qui m'enlève. Tu contiens, mère d'ébène, un éblouissant rêve de voiles, de rameurs, de flammes et de mâts. Un port retentissant où mon âme peut boire à grands flots le parfum, le son et la couleur, où les vaisseaux, glissant dans l'or et dans la moire, ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire d'un ciel pur où frémit l'éternelle chaleur. Je plongerai ma tête, amoureuse d'ivresse, dans ce noir océan où l'autre est enfermé, et mon esprit subtil que le roulis caresse saura vous retrouver, ô féconde paresse, infini bercement du loisir embaumé. Cheveux bleus, pavillons de ténèbres tendus, vous me rendez l'azur du ciel immense et rond. Sur les bords duvetés de vos mèches tordues, je m'enivre ardemment des senteurs confondues de l'huile de coco, du musc et du goudron. Longtemps, toujours, ma main dans ta crinière lourde sèmera le rubis, la perle et le saphir, afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde. N'es-tu pas l'oasis où je rêve et la gourde où je hume à longs traits le vin du souvenir ?
C'était Charles Baudelaire, lu par Georges Clès, La chevelure. Un grand merci à ceux qui ont préparé ces émissions l'an dernier. Livia Garing, Antoine Ravon, Nicolas Bouteloup, Marianne Chassard, Géraldine Mosna-Savoie. Une semaine réalisée par David Jacuboviez avec, à la technique, Bruno Gagnère-Fontanille. On se retrouve demain à 10h pour les chemins du vendredi. J'aurai le grand plaisir de vous faire découvrir à nouveau l'émission avec le philosophe Emmanuel Coccia pour son livre « La vie des plantes, une métaphysique du mélange ». D'ici là, pour réécouter cette émission, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des chemins de la philosophie vous donne également rendez-vous sur le compte Facebook et Twitter de l'émission où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.